Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, si ce titre n'était pas déjà pris par deux autres dimanches dans l'année, nous aurions pu appeler ce dimanche le dimanche de la joie, tant Saint Jean met l'accent sur la joie que nous possédons de savoir que le Christ est au ciel et qu'il va nous sanctifier. L'accent particulier est sur la joie, il y en a un autre qui est celui que je vais commenter, qui est celui de l'Église. Évidemment, le Christ ici s'est exprimé dans sa grande prière sacerdotale en laissant un témoignage important à ses apôtres sur ce qu'est l'Église. Je vais d'abord voir ce qu'est l'Église par rapport à Dieu, pour voir ensuite ce qu'est l'Église par rapport au monde. L'Église par rapport à Dieu. La Sainte Église hiérarchique, comme aime à l'appeler Saint Ignace de Loyola dans ses exercices, pour éviter immédiatement l'erreur grave, fondamentale et récurrente dans notre histoire, de diviser l'Église. Vous l'avez déjà entendu, il y aurait l'Église mystique, l'Église spirituelle, celle qu'aurait voulu le Christ en quelque sorte, et puis il y aurait la vraie, l'Église des hommes, construction humaine, pour ne pas dire invention humaine. Ce faisant, en coupant l'Église en deux, eh bien, on ne fait rien de moins que de couper le Christ en deux. C'est un refus de l'incarnation du Christ. Oui, jusqu'à la fin des temps, nous aurons du mal à comprendre comment Dieu peut se faire un parmi nous, comment il peut vraiment habiter parmi nous, comment son corps mystique se confond avec la construction humaine, car il y a évidemment une part de construction humaine dans l'Église, mais elle est habitée par le Christ qui la sanctifie tout entier. Voilà un point important. L'Église, c'est Jésus-Christ répandu et communiqué jusqu'à la fin du monde, selon la belle expression de Bossuet que j'aime à répéter souvent, je ne m'en lasserai peut-être jamais. L'Église, l'Église qui est au ciel, l'Église qui est sur terre, c'est essentiellement la même, sans quoi vous coupez Jésus en deux. Le Seigneur a voulu, dans ses sacrements, continuer d'habiter parmi nous. Mais alors vous allez me dire, mais mon Père, il y a des parts de cette Église qui ne sont pas saintes. Eh oui, le corps du Christ, lui, est parfaitement saint, mais j'espère que je ne vous fais pas une révélation. Il y a des chrétiens qui ne sont pas saints. Et si d'aventure vous avez fait récemment un examen de conscience, normalement, vous devriez vous compter parmi ceux-là. Je vous fais encore une révélation. Il y a des prêtres qui ne sont pas encore saints. Et il y a des prêtres, moi-même, qui ne suis pas encore un saint, qui espèrent que la grâce de Dieu les préservera de tout péché grave. Il y a encore des évêques qui ne sont pas tous des saints. Au IVe siècle, 70% des évêques de l'Église catholique étaient ariens, c'est-à-dire hérétiques, ne croyaient pas en la divinité du Christ. Il y a eu des papes qui ne furent pas des saints. Eh bien, mes bien chers frères, nous qui sommes des paroissiens de Saint-Roch, c'est-à-dire des gens persuadés que nous sommes des pèlerins, puisque Saint-Roch en est le patron, qui sommes persuadés que nous sommes dans l'achèvement de notre vie, nous savons que nous ne sommes pas encore des saints, que nous sommes en chemin pour être sanctifiés par l'Esprit qui vient et que nous attendons. Il me souvient un jour d'avoir rencontré des témoins de Jéhovah qui, non sans une certaine finesse, m'avaient fait remarquer, mais je n'étais pas prêtre à l'époque, mais monsieur, vous dites que vous êtes catholique, mais regardez, il y a des papes qui n'étaient pas bons. Mais je lui dis, je sais, il y a même des papes qui étaient de grands pécheurs, il y a eu des Borgia assassins. Mais les Borgia assassins ont transmis leur mission intacte, ils ont transmis et la foi de l'Église et l'unité de l'Église. On leur demandait, alors évidemment, on aurait pu leur en demander plus. Quand ils sont des saints, c'est mieux. Nous aimons à avoir des saints, des papes qui soient des saints, nous aimons à avoir des évêques qui soient des saints, nous aimons à avoir des prêtres qui soient des saints, nous aimons à avoir des paroissiens qui sont des saints, évidemment. C'est mieux. Mais ce n'est pas ça qui fait la sainteté de l'Église. Ce qui fait la sainteté de l'Église, c'est le corps du Christ qui se transmet et se donne à ceux qui veulent bien s'y agréger. Cette constitution, elle est divine dès le début. Là encore, la première lecture nous détrompe immédiatement sur l'idée que Jésus aurait donné des valeurs et des sentiments et des directives générales, et puis que le reste n'est que construction humaine. Voyez-vous, nous avons un exemple ici du choix du premier apôtre qui va succéder au collège des apôtres défaillants, puisque Judas, parmi les premiers choisis par le Christ, parmi les 12, il y a un traître. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça n'a pas empêché l'Église de vivre. Mais immédiatement, Saint-Pierre convoque ce qu'on appellerait un conclave aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble de ses pères, et ils vont choisir un successeur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les deux critères qu'il donne pour choisir un successeur sont encore les deux critères que nous utilisons aujourd'hui dans l'Église pour choisir les successeurs des apôtres. Il y en a deux, vous avez remarqué. Le premier critère, c'est qu'il ait été un témoin de la vie du Christ. Témoin, c'est pas juste qu'il ait vu quelque chose, c'est-à-dire qu'il ait suivi l'Église, qu'il ait vécu avec elle, qu'il ait pris sa part. Eh bien, on choisit encore aujourd'hui les évêques parmi ceux qui ont été prêtres, qui ont été curés, aumôniers, qui ont une part de responsabilité dans le peuple chrétien et qui donc seront ordonnés évêques pour le guider. La deuxième critère que l'on choisit, qui est mis en avant par les Actes des Apôtres, eh bien, est un critère plus intérieur, plus spirituel, c'est celui du cœur. Comment, dans le discernement du cœur, on choisit le meilleur? Eh bien, c'est encore aujourd'hui comme ça que ça se passe. On constitue un dossier, des évêques proposent des noms, on constitue une enquête et on envoie ça au pape. On lui en propose toujours plusieurs, de sorte qu'il puisse choisir dans sa prière celui qui lui semble le meilleur. Voyez-vous, les critères n'ont encore pas changé. L'Église a beaucoup changé, et elle changera encore. En 2000 ans, l'histoire formelle extérieure change. Mais nous avons gardé la constitution divine de l'Église et son fonctionnement premier. Nous n'avons pas dévié de la mission donnée et de l'institution créée par le Christ. Voilà, c'était mon premier point, l'Église de Jésus-Christ. Et je sais qu'aujourd'hui, mais de tous les temps, hein, rassurez-vous, elle est décriée. C'est normal. Il est plus rassurant, a priori, de se dire qu'on va aimer une église idéale, en fait une église qui n'existe pas. Je pense que vous savez tous que vous n'êtes pas les enfants parfaits de vos parents, que vous n'êtes pas le fils ou la fille rêvée, que vous n'êtes pas l'époux ou l'épouse rêvée, que vous n'êtes pas les parents rêvés. Les parents, les époux et les fils rêvés sont des gens qui n'existent pas. La réalité de ce que nous sommes vaut infiniment plus que l'idéal rêvé, spirituo-gazeux que l'on peut imaginer. Ce qui est bon, c'est que l'Église existe dans sa réalité et qu'elle se donne à nous dans la vie. Mon deuxième point sera donc, puisque c'est la vie, l'Église par rapport au monde. Alors là, c'est très simple, c'est Saint Jean qui nous en donne et la condition constitutive et la condition subséquente. La condition constitutive, il n'y en a qu'une, c'est l'amour. Si nous voulons garder l'unité dans la foi, ce n'est pas d'abord un effort intellectuel, ce n'est pas d'abord un raisonnement qui va nous garder chrétiens, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et oui, Dieu est amour, Dieu est un acte d'amour, c'est pour ça qu'il se donne à nous, qu'il va une fois de plus nous rencontrer dans un acte de don, dans la messe et la communion. Eh bien nous aussi, si nous voulons vraiment nous livrer à cet acte, il nous faut nous aimer les uns les autres. Voyez-vous, l'union des chrétiens n'est pas fondée sur celui d'un club politique. Nous ne fondons pas notre union sur des options politiques, de quelque nature qu'elles puissent être. Nous ne fondons pas notre union sur des considérations sociales ou des considérations de rang ou d'origine. Nous ne fondons pas notre union même sur des goûts, que vous soyez plus comme ci ou comme ça. Dans l'Église, on aime bien dire que les uns sont plus traditionnels, que les autres sont plus progressistes. Il y en a qui prient en chantant, il y en a qui prient à genoux, il y en a qui prient en latin, il y en a qui prient en tapant dans les mains. cela n'a pas beaucoup d'importance, ce n'est pas ça qui nous rassemble, nous ne sommes pas un club politique, nous sommes l'union des membres du Christ engendrés par l'Esprit Saint, agrégés à lui-même. C'est ça qui est important, c'est ça qui nous unit profondément. Mais pour garder cette unité, il nous faut effectivement vivre de l'amour, comme d'ailleurs dans toute condition humaine. Dans une famille, c'est aussi vrai. S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de famille, et pourtant ça semble indestructible, le lien des parents et des enfants, le lien des époux entre eux. S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vie possible. Voilà notre condition de chrétien que nous allons cimenter jour après jour par l'union que nous allons en faire dans l'amour de Dieu. C'est un amour qui n'est pas hypothétique, une fois de plus, qui n'est pas une réalité rêvée, qui est une réalité de tous les jours. Tout à l'heure, juste avant de communier, si vous allez échanger un geste de paix, c'est pour être certain que c'est dans l'amour du Christ que vous êtes unis les uns aux autres, qui vous donne alors spirituellement d'accéder réellement à la communion de son corps. La conséquence de cet acte, c'est la joie de se savoir unis les uns aux autres et de manière indéfectible. Cette joie, elle est grande, on peut sans cesse, et on aime bien, peut-être que les Français en sont spécialistes, se plaindre tout le temps que ça va pas bien, et puis dans une paroisse ça va pas, et puis dans le diocèse ça va pas, et puis etc. La réalité, c'est que nous sommes unis les uns aux autres, et que notre Saint-Père le Pape, sa première mission, c'est de nous tenir tous ensemble. On ne s'en rend pas compte, mais c'est extraordinaire. Où que vous alliez dans le monde, dans l'Église catholique, vous êtes tous un. Les prêtres ont un petit célébrette, c'est une petite pièce d'identité, rédigée en latin, c'est la langue officielle, et dans la langue de leur propre pays, la mienne est donc en français et en latin. Et si je rencontre n'importe quel prêtre du monde, il aura la même, rédigée en latin et dans sa propre langue, que ça soit en wolof, en inuit, en allemand ou en araméen. Eh bien, je ne crois pas que ce soit une langue officielle araméen, mais l'hébreu en tout cas. Eh bien, je peux aller célébrer la messe et donner les sacrements partout dans le monde, sans aucune limite. C'est tout de même extraordinaire. Vous-même, où que vous alliez dans le monde, où que vous vous promeniez, il vous suffit de trouver un prêtre catholique, il vous dispensera tous les sacrements dont vous avez besoin. Notre unité est grande, elle vient de ce premier des évêques, le pape, qui nous tient tous sous sa coupe, qui nous tient dans une union d'amour. Rendons grâce à Dieu. Soyez profondément joyeux que nous soyons unis au Christ et donc dans l'Église. Je finirai sur une petite anecdote qui m'était arrivée déjà il y a 10 ans, plus de 10 ans. J'étais au Bangladesh et il y avait un hôpital qui était dirigé à la fois par des protestants et à la fois par des catholiques. Et j'avais invité un pasteur à prendre un café ou je ne sais plus quoi à la paroisse. J'étais séminariste à l'époque. Et nous devisions des choses pratiques du gouvernement de cet hôpital, et puis aussi sur les choses de notre engagement. Et il me dit « Alors vous êtes missionnaire ?»« Non. » Ah, il cherchait la raison de ma présence au Bangladesh. Alors, je lui dis « Non, je suis séminariste du diocèse de Paris. » Ah d'accord. Il me dit « Et alors, quand vous serez prêtre, vous serez missionnaire ici ?» Non. Alors, l'église qui est à Paris a un contrat spécial avec l'église qui est au Bangladesh. Non. Alors, comment êtes-vous arrivé ici, me dit-il. Mais je lui dis, je ne suis pas arrivé ici, je n'ai pas besoin d'un contrat. Je suis chez moi partout. Car dans l'église catholique, nous ne sommes pas des petites communautés qui se lient les uns aux autres. Nous sommes directement plongés dans le corps du Christ. Cette union, elle est grande. Il faut rendre grâce à Dieu que vraiment ça marche. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas d'union avec les autres, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres unions, mais contemplez la dimension immédiate de notre union, c'est la seule qui vous permette vraiment de communier maintenant à cette messe sans que je vous demande aucune preuve, sans que je ne vous demande aucune dignité précédente. Il vous suffit d'avoir été baptisé dans le Christ, de vouloir y communier, d'être vous-même dans l'état de le faire, c'est une grande grâce. Soyez dans la joie, soyez toujours dans la joie, je vous le redis, dit saint Paul, c'est ça dont vous allez vivre éternellement. Amen.